au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Émilie Julia.
Recevons aujourd'hui dans cette émission au fil des pages Isabelle Schmitz, membre de la rédaction du Figaro hors-série. Nous allons parler de ce hors-série dédié aux soldats de l'éternité et à une exposition très attendue à la Pinacothèque de Paris. Alors, qui sont ces soldats de l'éternité? Je vous propose un tour d'horizon dédié à la Chine et à son premier empereur. Isabelle Schmitz, bonjour.
Bonjour Émilie.
Alors, qui sont les soldats de l'éternité?
Alors, les soldats de l'éternité sont plus connus sous le nom d'armée enterrée d'Oxiane. Ce sont des soldats qui ont été construits et réalisés, moulés, pour accompagner l'empereur, le premier empereur de Chine, Qing Shiwangdi. En fait, ça se prononce Qing Shiwangdi, mais ça s'écrit avec un Q, donc je le prononcerai Qin, pour l'accompagner donc dans son repos éternel, ce qu'il pensait être son immortalité. Il s'est donc fait construire de son vivant une armée de près de 7000 soldats, avec en plus des animaux, des objets, des chars. Et donc cette armée enterrée fait partie de l'immense nécropole qu'il s'est fait construire. En fait, l'armée a été découverte en 1974 par des paysans qui creusaient un puits souterrain pour trouver de l'eau, tout simplement. Et ils sont tombés sur un soldat, puis deux, puis trois, puis dix. Et à ce jour, 1500 ont été exhumés. Et on estime à près de 7000 le nombre des soldats. Ce qui est assez intéressant et frappant pour cette armée enterrée, c'est que les historiens chinois, même de l'époque, dont le grand Sima Qian, qui a donné moult détails sur la nécropole, n'a jamais parlé de cette armée. On ne sait pas trop pourquoi. Et en tout cas, cette armée était en fait à 1 kilomètre du mausolée funéraire de l'empereur. Et elle était censée garder ce mausolée, garder l'empereur des assauts des ennemis. Et donc, c'était une armée rangée en ligne de bataille, parfaitement organisée, avec même des systèmes de défense si des pillards pénétraient dans ce lieu. Et c'est aujourd'hui ce que présente la Pinacothèque. Alors malheureusement pas l'armée dans son intégralité, vous imaginez bien que ce serait impossible de déplacer tout ça, mais quelques soldats et ainsi que des chevaux, une reconstitution de chars qui est très très bien faite. Et voilà, c'est ce qu'on peut venir voir à la Pinacothèque de Paris ces mois-ci.
Voilà, donc la Pinacothèque qui se situe place de la Madeleine à Paris et qui propose cette exposition jusqu'à septembre 2008. Dans ce hors-série, Isabelle, donc on trouve un sujet de thème très varié. Qu'est-ce que vous avez voulu dire? Qu'est-ce que vous avez voulu apporter?
Alors, ce que nous avons voulu dire et montrer, puisqu'il y a ce qu'on peut dire par les articles et ce qu'on montre par les images, c'est toute la richesse de cette armée, la richesse de ce songe de l'empereur qui, ne voulant pas mourir, se fait construire une deuxième vie, en fait. Et on a essayé de le montrer de la façon la plus vivante possible. D'abord en choisissant des photos qui témoignent de l'extraordinaire vie de ces objets, puisque ces soldats, après tout, ne sont que des objets, ce sont des statues de terre cuite. Et pourtant, malgré leur reproduction à l'identique, je crois qu'il y avait uniquement 2 ou 3 moules différents pour les soldats, malgré ces moules identiques, chacun a des détails qui lui sont propres. C'est-à-dire, l'un a le sourcil plus haut que l'autre, la main crispée, le poing tendu. Et donc, ils sont tous différents. Ils ont été également colorés, peints. Et donc, nous avons voulu chercher des photos qui puissent rendre compte de tous ces détails et de toute cette art, finalement, qui a été déployé sur les soldats. Et on a trouvé un photographe italien qui s'appelle Araldo De Luca, qui est spécialiste de photos d'orfèvrerie et qui a beaucoup travaillé sur l'armée éternelle et également sur le trésor de Toutankhamon. Et donc, grâce à ce photographe italien, qui est diffusé par les éditions White Star, la maison d'édition italienne qui existe en France également, on a pu essayer de recréer cette ambiance assez surréaliste qui peut émaner de cette armée des soldats de l'éternité. Et puis, par les articles, on a essayé de présenter la figure de l'empereur de la façon la plus vivante et la plus complète possible. Parce que c'est une figure assez ambiguë, si l'on peut dire, puisque certains le présentent comme le premier dictateur de tous les temps. Enfin, le premier, je ne sais pas, mais en tout cas l'un des plus démesurés. Et c'est sûr que si l'on regarde son bilan humain, il est extrêmement lourd en termes de morts, de supplices, de tortures, de déportations et de décisions totalement arbitraires et qui paraissent folles. Et en même temps, cela a été quelqu'un qui a construit l'Empire de Chine, qui a unifié en fait tout cet empire en s'imposant à toutes les puissances rivales et qui lui a donné une organisation, une administration. C'est l'empereur qui a bâti la muraille de Chine. C'est celui qui a instauré un code juridique et une structure très rigide, mais en même temps qui du coup a créé la nation chinoise en tant qu'État et l'empire chinois en tant qu'empire. Donc à ce titre, il est tout de même très intéressant et donc il allie une forme de barbarie à une grande civilisation et un certain raffinement que l'on voit dans ses soldats.
Donc vous avez abordé ces thèmes par des illustrations, donc très riches dans ce hors-série. Vous présentez quoi à travers vos photos? Qu'est-ce qu'on peut y voir?
On peut voir tout simplement les soldats dans leur ensemble. On a quelques vues d'ensemble assez spectaculaires, parce que c'est vrai que 7000 statues alignées, c'est très organisé. En plus, sur le site où ils ont été trouvés maintenant, celles qui sont remontées sont rangées en colonnes de bataille telles qu'elles devaient être au départ, puisqu'évidemment, quand on les a retrouvées, elles n'étaient plus debout et entières, elles étaient souvent fracassées. Et donc, on a essayé de montrer ça, ces vues d'ensemble, et puis les détails, puisque, en fait, les soldats vus de près et en gros plan ont vraiment une expression, une expressivité humaine. Et donc, on trouvait ça intéressant de jouer sur les rapprochements, les vues d'ensemble et en même temps les détails qui sont assez parlants de la variété de cette armée. Puisqu'en fait, le songe, enfin, c'est cette volonté de l'empereur, je dis le songe, mais il s'est quand même réalisé, cette volonté de l'empereur de se faire accompagner de son armée reflète surtout la vraie armée qu'il a créée et qu'il a mise sur pied et qui était redoutable au dire des ennemis et de ceux qui l'ont affronté et qui était parfaitement organisée. Il y avait une répartition extrêmement définie dans les corps d'armée. C'était des groupements de familles. 5 familles formaient une unité qui était extrêmement soudée. Et si un des membres de l'unité reculait pendant un combat, hésitait, c'est toute l'unité qui était punie. Donc c'était une armée qui marchait quasiment comme un automate parce qu'elle était parfaitement tenue et qu'elle savait que c'était vaincre ou mourir. Là, c'est vraiment ça. Et donc, je crois que c'est très intéressant d'imaginer, en voyant ces statues, quels étaient les hommes qui composaient la vraie armée de l'empereur Qin Shi Huangdi.
Alors, pour accompagner ces photos, il y a des textes. Quelle équipe vous avez réunie pour pouvoir travailler l'information, les connaissances et surtout les démocratiser, les faire intégrer du grand public?
Oui, notre souci premier est effectivement de pouvoir permettre aux visiteurs de l'exposition ou à celui qui s'intéresse à cet empereur de Chine de pouvoir lire sa vie comme un roman, tout en lui fournissant des données assez sérieuses. On a pour cela fait appel à une journaliste du quotidien qui s'appelle Irina Dotchikov, qui a étudié l'histoire de la Chine, mais qui a un talent de conteur assez incontesté et incontestable, et donc qui décrit en 12 journées l'avènement, l'histoire en fait des temps originels de la Chine, et puis l'avènement de cet empereur Qin Shi Huangdi, ses questions, ses doutes, les buts qu'il se propose, et elle le fait de manière certes un petit peu romancée, parce qu'évidemment les sources manquent, même si je vous parlais tout à l'heure de Xima Qian, qui est un historien chinois de l'époque, ou un peu postérieur, et qui raconte tout ça. Évidemment, il a fallu prêter des sentiments dont on n'est pas absolument sûr, mais tout cela donne du coup à cette histoire le caractère d'une épopée. Et puis, ensuite, passé le roman historique, on a voulu présenter l'histoire de ce site et de cette nécropole de façon assez méthodique. On a fait appel pour ça à Alain Barluet, qui est un journaliste du Figaro au service étranger, qui a été plusieurs fois à Xi'an, qui parle chinois, qui connaît très bien l'histoire de la Chine, et donc qui essaye d'expliquer la constitution de cette armée, comment elle a été retrouvée, quels sont les débats des archéologues, puisque ces soldats aussi sont d'une conservation très délicate, et plusieurs d'entre eux, les premiers qui ont été exhumés, ont totalement perdu leur couleur, ce qui a posé évidemment beaucoup de problèmes aux archéologues pour la suite, savoir comment faire pour conserver cette polychromie qui, au contact de l'air, s'effaçait. Donc voilà, on a cette présentation-là. Et puis ensuite, on a fait intervenir d'autres historiens, journalistes, sinologues, avec évidemment, je dirais en personnage phare, les commissaires de l'exposition, notamment Alain Toth, qui nous a accordé une interview très intéressante dans laquelle il explique la conception de cette exposition. Et puis surtout, il remet bien en perspective cette époque. On a également fait appel à un journaliste qui a fait une enquête sur les vrais et les faux. Thibaut Dary a travaillé sur cette polémique qui existe depuis longtemps, qui s'est posée en fait à Hambourg.
Sur l'authenticité des soldats de l'éternité.
Voilà, alors vous avez dit le terme intéressant parce que précisément, l'authenticité était dans la bouche de ceux qui ont fourni les statues à l'exposition de Hambourg et qui voulait dire, en fait, des soldats authentiques, pour eux, c'était des soldats d'Oxiane conformes aux soldats d'Oxiane qu'on peut voir à Oxiane. Je ne sais pas si je suis claire en disant ça, mais en gros, ce qui s'est passé, c'est que c'est un organisme culturel qui a servi d'intermédiaire pour fournir des statues à l'exposition de Hambourg et pour fournir des statues d'authentiques soldats d'Oxiane. Et en fait, par authentique, il ne voulait pas dire vrai. C'est-à-dire que ces statues-là étaient des copies, certes bien faites, mais qui n'étaient pas, qui n'étaient pas de vrais soldats d'Oxiane. Et en fait, ça a été un scandale énorme parce que cette exposition avait des milliers, voire dizaines de milliers de visiteurs qui avaient déjà acheté leurs billets, qui comptaient venir et qui ont appris au bout d'une semaine que finalement, ce n'étaient pas de vrais soldats et donc l'expo a même dû fermer. Je le signale parce que c'est une question qui se pose et dont on parle beaucoup dans les journaux. Les critiques rappellent toujours cela.
À la Pinacothèque, on retrouve des vrais ou des faux alors ?
On retrouve des vrais. Ça, c'est incontestable. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est d'abord les commissaires de l'exposition et puis tous ceux qui étudient sérieusement le sujet comprennent bien, vu toutes les garanties qui ont été données et vu le fait que la Pinacothèque a traité directement avec les autorités chinoises et le département culturel d'Oxiane, que ce sont des vrais. Il n'y a aucune possibilité que ce soit des faux, puisque tout est absolument officiel. La Chine dispose d'à peu près 7000 soldats. Quel intérêt aurait-elle à envoyer des faux, alors qu'on présente cela comme l'un des fleurons de son archéologie ? Et donc, il y a évidemment des certificats de provenance, des contrôles. Et enfin, bon, après, je n'ai pas vu ceux d'Hambourg, mais je crois que ceux de la Pinacothèque, je crois pouvoir dire que quand on les voit,
on n'a pas de doute.
On n'a pas de doute.
Vous connaissez un peu l'histoire de ce rapatriement. Est-ce que ça a été compliqué de ramener des pièces d'Asie ?
C'est compliqué, ça a été compliqué. Je connais pas intimement cette histoire, mais je pense que, bah, comme tout transport d'œuvres d'art, c'est délicat. Mais qu'après, justement, la Pinacothèque a beaucoup de mérite d'avoir eu ces soldats parce que les Chinois sont très exigeants et font très attention à leur statut, d'autant que certaines ont été détruites par des tâtonnements archéologiques discutables, emploi de matériaux qui ne convenaient pas à la terre cuite. Et donc, je ne connais pas intimement ça, mais j'imagine que cela a été délicat. Oui.
Merci Isabelle Schmitt d'avoir été avec nous. Nous avons parlé de ce hors-série du journal Le Figaro dédié à l'armée enterrée du premier empereur de Chine. Vous pouvez vous procurer jusqu'à début juin ce hors-série en kiosque ou le commander sur lefigaro.fr.